Au menu de notre club cet après-midi, du sang universel breton, un génie des mathématiques, un anniversaire scientifique et puis un nouvel institut pour étudier la microfluidique. Je vous présente mes invités dans un instant. Une intelligence artificielle en train de battre le champion du monde de jeu de Go dans une compétition qui se tient en ce moment à Séoul. Et bien c'est aujourd'hui à la une de la science, Catherine Decopet. Bonjour à vous.
Bonjour, il s'appelle AlphaGo, il est développé par Google et il vient de remporter 2 manches sur 5 face au coréen Lee Sedol. 2 victoires qui posent une nouvelle fois la question de notre rapport à ces machines intelligentes. Nous serons en ligne avec Séoul au cœur de l'événement.
Voilà pour le sommaire donc de ce club réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Emmanuel Fournier avec Estelle Honora.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, sang universel, le génie des maths, microfluidiques et des bougies à souffler dans ce club. Bienvenue à mes invités Franck Zal, Philippe Douroux, Bruno Macquart et Patrick Tabling. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Franck Zal. Fabriquer du sang à partir de vers marins, c'est votre idée. Elle est sur le point d'aboutir, ça y est?
Oui, tout à fait. En fait, elle est sur le point d'aboutir puisque aujourd'hui, le produit pharmaceutique est dans les blocs opératoires et attend les premiers patients.
Voilà, avec un essai clinique qui va démarrer.
Un essai clinique, en fait, sur le premier produit qui s'appelle Hemodolife pour préserver les greffons en attente de transplantation.
Vous allez nous raconter comment vous est venue cette idée. Patrick Tabling, lundi, la microfluidique aura son grand institut à Paris. Ça y est, là aussi?
Oui, une inauguration est prévue par le président de la République et la maire de Paris. Oui. Et on pourra présenter les travaux que l'on effectue et les projets que l'on a.
Voilà, sur cette science qui étudie le comportement des fluides. Bruno Macquart, la Cité des sciences et de l'industrie fête ses 30 ans dimanche. Est-ce que ce mot d'industrie correspond toujours d'ailleurs à l'image d'un tel lieu de culture scientifique?
Aujourd'hui, on dirait innovation. Ouais. Cité des sciences et de l'innovation, en tout cas 30 ans de bonheur. Et 30 ans de découverte avec le public.
Et vous nous expliquez comment justement vous faites découvrir la science au grand public. Et puis Philippe Douroux, vous consacrez une biographie à Alexandre Grothendieck, que vous qualifiez le dernier génie des mathématiques. Dans ce domaine, vous pensez vraiment que de telles figures n'existeront plus?
Il existera peut-être une autre figure. Pour l'instant, elle n'existe pas. De cette dimension, c'est-à-dire qu'un génie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui bouscule les règles de sa science et qui oblige les autres mathématiciens à se mettre dans son sillage. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre Grothendieck à l'horizon, mais peut-être a-t-il 10 ans, 19 ans ou 14 ans, je ne sais pas.
Pour l'instant, il n'y en a pas. Génie des mathématiques et personnage singulier, comme on va le découvrir avec vous. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science, aujourd'hui, on revient donc sur la formidable partie de Go qui est en train de se jouer en Corée du Sud en ce moment entre le champion du monde en titre Lee Sedol et un ordinateur.
Ça, c'est le Goban. Ça, ce sont les pierres. On les pose une chacun son tour, mais une fois posées, elles ne bougent plus. Le but du jeu est de constituer des territoires en traçant des sortes de frontières avec les pierres.
Je vais pas tout retenir en une fois.
Ah non, va falloir qu'on se revoie.
Souvent?
Ah oui, très régulièrement.
Pour jouer au Go? Je vais pas m'ennuyer?
Ah non. Ah non, c'est extrêmement amusant.
Voilà, extrait du film 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin, Catherine Decopet.
Oui, alors le champion du monde Lee Sedol a perdu une nouvelle fois face à AlphaGo hier. AlphaGo, cet ordinateur développé par DeepMind, une filiale de Google dédiée à l'intelligence artificielle. L'ordinateur a véritablement créé la surprise. Il reste encore 3 manches à jouer, autant dire que le suspense est à son comble.
Et oui, et pour en parler, nous sommes au téléphone depuis Séoul avec vous, Tanguy Chouard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité scientifique de la revue Nature. Vous faites partie alors des très rares personnes à pouvoir assister à cette partie dans la salle de jeu elle-même en tant qu'observateur formel. Comment vous avez obtenu l'autorisation de vous retrouver justement auprès de l'ordinateur et du joueur?
C'est une longue histoire, c'est une bonne dizaine d'années de boulot. Et c'est lié en fait à ma fonction à Nature. Je suis un éditeur, ça consiste un peu à être à la fois un sélectionneur et un arbitre du processus dans le processus scientifique. Donc je déniche les équipes qui sont les plus prometteuses et après il faut que je m'assure que ce qu'elles font est techniquement rigoureux et scientifiquement correct grâce au processus de peer review. Et donc ici, je joue le rôle d'observateur, surtout pour donc assurer la transparence et la reproductibilité de la partie scientifique. Et le contre-exemple phare pour nous, c'est l'affaire Deep Blue d'IBM, où, si vous vous rappelez peut-être, il y a une vingtaine d'années, après le match décisif de 97, la machine avait été démantelée. aux grandes dames de Kasparov qui s'étaient plaint. Et donc nous, l'obsession c'est un peu d'éviter ça et donc d'assurer, donc avec la publication d'un papier scientifique et ma présence au cours des matchs, etc., de assurer la transparence parfaite pour que, ben, pour que le débat sur l'intelligence artificielle soit transparent, quoi.
Tanguy Chouard, est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance de cette pièce? La partie d'hier a duré 4h30 et vous donc faites partie des rares personnes à y avoir assisté. Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, déjà, les 4h30, elles passent on a vraiment en un soupir, quoi. C'est absolument passionnant et donc on voit pas le temps passer. Donc en face de nous, donc vraiment littéralement à deux pas, il y a Lee Sedol devant son plateau de Go, exactement comme s'il participait à un tournoi normal. En face de lui, il y a un humain d'ailleurs qui s'appelle Aja Huang, qui est un des co-auteurs, un des dirigeants de l'équipe des ingénieurs qui a conçu AlphaGo, et qui place les pierres sur le plateau pour le compte de l'ordinateur. Et en fait, il suit pour ça ce que l'ordinateur lui indique sur un écran. Et d'ailleurs, Lee Sedol voit l'écran aussi, et pendant le premier match, il s'en fichait complètement, mais hier, j'ai trouvé qu'il regardait souvent l'écran, ce qui donnait une anxiété grandissante.
Oui, donc il reste trois manches à jouer sur cinq, et personne ne s'attendait vraiment à ce résultat de 2-0, donc pour la machine, hein.
Oui, 2-0 déjà. Alors là, le monde du Go est totalement stupéfait, hein, vraiment sous le choc. Il s'y attendait vraiment pas, quoi. Et toute la Corée, oui, toute une nation qui est, bon, je dirais pas en deuil, il faut pas exagérer, mais il y a vraiment, tout le monde est sous le choc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les ingénieurs aussi sont sous le choc. Et ça, c'est l'autre, bon, il y a la dimension humaine d'être à deux doigts de Lee Sedol quand il soupire et quand il commence à angoisser. Ça, c'est un peu la surprise, l'émotion que ça m'a produite. Mais il y a aussi l'émotion de l'équipe, en fait, à côté de moi. Ils étaient très anxieux au début du match. David Silver, l'auteur, le premier auteur du papier, respirait lourdement. Et donc c'est un gros soulagement pour eux. Et en fait, ils sont eux-mêmes stupéfaits par la qualité du jeu de leur créature. Ils sont un peu comme des démiurges qui sont, ou des parents fiers qui regardent leur enfant et qui sont tout étonnés de ce que peut faire cette créature.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Tanguy Chouard, en quoi AlphaGo, donc cette machine miracle, diffère de Deep Blue, qui était la machine donc de 1997, qui avait mené une partie d'échecs face à Garry Kasparov? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? C'est-à-dire qu'elle apprend à jouer, c'est cela?
Alors, ouais, la grosse différence, c'est que Deep Blue, finalement, bon, c'était une grosse machine, mais c'était un ordinateur classique, c'est-à-dire qu'il faut lui dicter exactement tout ce qu'elle fait. Donc, elle était programmée, je dirais, manuellement par une équipe qui comprenait des experts en échecs, et donc ils devaient lui dire explicitement ce qu'elle devait faire. Alors que là, AlphaGo, c'est une intelligence de type implicite, on parle d'heuristique, c'est-à-dire que c'est une boîte noire. En fait, personne ne lui a jamais indiqué quoi que ce soit sur le jeu. On l'a simplement présenté avec des millions de positions, 30 millions de positions, il y a une centaine de milliers de parties. Et automatiquement, je dirais, sa structure, qui est d'ailleurs très copiée sur l'humain, hein, sur les réseaux de neurones humains, s'adapte, change les poids synaptiques, les connexions entre ces différents neurones formels, et puis devient de plus en plus un puits de connaissances sur le jeu, mais sans c'est la pensée, mais sans la narration.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi elle a décidé de faire tel ou tel coup, c'est ça?
Exactement. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que disent les joueurs pros quand ils posent une pierre. Bon, ils peuvent expliciter beaucoup de choses, mais souvent ils disent c'est parce que je le sens, quoi. Et la machine fonctionne par construction de cette façon-là. Donc il y a un côté boîte noire qui, à mon avis, doit être discuté maintenant, parce que ça fait de la machine un peu un oracle artificiel.
Ouais, justement, Tanguy Chouard, est-ce qu'on s'achemine inéluctablement vers la victoire, justement, de l'ordinateur, à votre avis, même s'il reste encore trois parties à jouer?
Alors là, c'est ça le gros choc, c'est que avant les parties, la surprise, ça aurait été que la machine gagne. Et après ces deux matchs, c'est surtout la qualité du jeu, quoi. Les pros là sur le net n'arrêtent pas de repasser les parties et ils sont stupéfaits. Il n'y a pas un défaut, même Lee Sedol, la deuxième partie. La première partie, vous pouvez voir une ou deux peut-être des coups qu'on pouvait appeler des erreurs. Mmh. Et maintenant, quand ils voient quelque chose qui ressemble à une erreur, ils disent c'est peut-être AlphaGo qui sait mieux que nous, quoi.
Ouais.
La surprise, ça serait si Lee Sedol gagnait une partie, en fait.
Tanguy Chouard, qu'est-ce que Lee Sedol a encore comme atout face à cette machine? La capacité de se reposer aujourd'hui?
Alors déjà, il se repose aujourd'hui. Avant le match, déjà, il se préparait par 2 heures de méditation par jour. Là, je pense que ça suffira plus. Il y a quelque chose que, si on imagine, il y a quelque chose que la machine fait pas, c'est la capacité à généraliser sur peu d'exemples. Mmh. Nous, on voit un vieux téléphone noir, les visiteurs, là, s'ils viennent du Moyen-Âge, ils voient ça, on leur présente un téléphone orange plaqué au mur dans un hôtel qui a une forme bizarre, ils voient tout de suite que c'est un téléphone. La machine, il faut qu'elle voit des millions de téléphones pour comprendre ce qu'est un téléphone. Donc, elle peut pas apprendre sur les deux parties qu'elle a faites contre une cible. D'ailleurs, elle est pas en mode d'apprentissage en ce moment. Et juste en mode exécution, mais l'Isidol, lui, il se peut qu'il revienne sur ces deux parties-là et qu'il trouve quelque chose. Mais bon, j'entendais votre invité parler de génie tout à l'heure, il va lui falloir un coup de génie, ouais, ça c'est ouais. sûr.
Bon, bah en tout cas, journée de repos, il faut qu'il se repose bien.
Il faudrait qu'il trouve la prise secteur, par exemple, qui débranche l'ordi, quoi.
Ça, ah oui, mais oui. On va suivre ça de près, donc, pour voir si effectivement, pour la première fois, un ordinateur est capable, comme ça, de battre le joueur mondial de jeux de Go. Merci, Tanguy Chouard. Vous étiez, je le rappelle, en direct de Séoul, au cœur de cette partie historique. Merci beaucoup à vous. Merci, Catherine.
Merci.
À très bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des armes antiques en bronze viennent d'être retrouvées dans le Sultanat d'Oman. Les universitaires français, ainsi que les chercheurs du CNRS responsables des fouilles ont débuté leur étude en 2011. 2 carquois complets, 5 arcs et d'autres armes métalliques datant du deuxième âge de fer ont été découverts. Forgées dans du bronze, ces armes devaient être cérémonielles, selon les chercheurs. Elles devraient donc nous permettre de mieux connaître les pratiques sociales et les rituels existants en Arabie entre 900 et 600 ans avant notre ère. Les photos de ces découvertes rarissimes sont en ligne sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Des chercheurs français viennent de mettre en évidence un nouveau gène impliqué dans une forme précoce et sévère de la maladie de Parkinson. 62 malades présentant une consanguinité ont été étudiés pour augmenter la probabilité d'observer des mutations trouvées sur des gènes spécifiques à la maladie. Le nouveau gène responsable était jusqu'ici connu pour protéger les neurones. Cette forme sévère de la maladie de Parkinson, très handicapante, touche des personnes de moins de 40 ans, une avancée scientifique qui ouvre donc de nouvelles pistes thérapeutiques. Et puis enfin, les animaux les plus laids sont les plus mal aimés également des études scientifiques selon une revue australienne, Mammal. Une étude a classé 331 espèces dans les rubriques gentils, méchants et moches. Conclusion, les rongeurs ou les chauves-souris considérés comme laids peinent à trouver des crédits pour être étudiés, alors que les gentils animaux comme les koalas, les pandas ou les porcs-épics raflent la mise et trouvent plus de financement. Allez, le club dans un instant.
Promise they will not overwhelm my train.
Voilà Jeff Buckley à l'occasion de la journée spéciale qui lui est consacrée depuis ce matin sur France Inter à l'occasion de la sortie d'un album qui regroupe des versions inédites de ses chansons.
Le club des têtes au carré en partenariat avec TEDx Paris sur France Inter.
Pour parler d'un génie des maths, de l'anniversaire de la Cité des Sciences, un institut également pour la microfluidique et l'invention d'un sang universel, ce sont les sujets donc de notre club. Mes invités donc le journaliste Philippe Dourou, le président d'Universcience Bruno Macquart, le physicien Patrick Tabling et le biologiste Franck Zal. Vos messages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Franck Zal, c'est avec vous que nous commençons. Vous êtes docteur en biologie marine, PDG fondateur de la société de biotechnologie Emarina, qui est basée à Morlaix dans le Finistère. Et le 5 octobre 2014, souvenez-vous, vous étiez sur la scène de TEDx Paris face au public pour présenter justement votre découverte d'un sang universel. Et il n'y a pas de son. Donc on va démarrer directement pour parler de votre invention. Ce que vous expliquez justement dans cette conférence, qu'on peut retrouver par contre en lien hein, sur site de la Tête au Carré, c'est ce décalage finalement entre les besoins en sang et puis les dons qui sont très très peu nombreux.
Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que 90% de la population française sait que les dons du sang permettent de sauver des vies, mais ils sont 5% à le faire tous les ans.
Ouais.
Et il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, il manque 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population.
Ouais. Alors, comment est venue cette idée de sang universel sur une plage bretonne, c'est ça?
Exactement, ouais. Oui. En fait, en étudiant la biologie, l'écophysiologie d'un ver marin qui s'appelle l'arénicole, ou en breton, on l'appelle le busug. Enfin, je m'intéressais à essayer de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse.
D'accord.
Et finalement, afin de répondre à cette question, je me suis intéressé au sang de cet animal, puisque c'est le sang qui fait l'interface entre le milieu intérieur d'un organisme et sa physiologie. Et je me suis aperçu, en fait, que cette hémoglobine n'avait pas de globules rouges et était de type universel.
Ouais. Mais alors, toutes ces observations que vous avez faites, là, c'est sur un temps très très long, tout ça est venu petit à petit. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu cet intérêt pour ce ver en particulier, et puis ensuite, après avoir étudié sa biologie, vous vous êtes aperçu que vous pouviez créer peut-être quelque chose comme du sang universel, c'est ça?
Exactement, en fait. Alors, il y a plusieurs années qui sont passées, puisque finalement, la science, c'est un long processus. Ça commence souvent par une recherche un peu fortuite, donc de recherche fondamentale. Et finalement, donc, en croisant ces recherches en sortant de sa zone de compétences, en allant voir des médecins, etc., je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette molécule qui répondait en fait à un véritable besoin de santé publique.
Oui, ah ben oui, effectivement. Alors c'est un ver très ancien, c'est ça, dans l'histoire du vivant, justement?
Alors ça, c'est intéressant, oui. C'est un ver en fait qui a plus de 450 millions d'années,
ouais.
Alors que nous, on a 3 millions d'années.
C'est ça. Alors il fonctionne toujours de la même manière depuis 450 millions d'années, a priori?
Exactement, oui. Donc en fait, ce ver, on le trouve sur la zone de balancement des marées, donc ouais. Vraiment sur des plages, et c'est des populations extrêmement importantes en fait en Bretagne.
Philippe Dourou, vous avez une question à poser, oui. Avec Franck.
Est-ce que c'est un sang qui est humain? Ou c'est un sang qui se fond dans le sang humain, c'est quoi? C'est du sang.
Alors,
qui est proche d'une autre ou pas?
Oui, alors, il faut faire attention.
Il faut expliquer.
Faut expliquer, en fait. Dans le sang, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, des hormones, un tas de protéines, etc. Ici, on parle uniquement de l'hémoglobine qui est contenue dans le globule rouge. Donc, quand vous entendez parler de sang artificiel, c'est faux. Ouais. En fait, c'est uniquement la fonction qui remplace ou qui pourrait remplacer, en fait, la fonction du globule rouge, donc de transporter de l'oxygène. Par contre, au niveau de la structure de cette molécule, elle est totalement proche, en fait, quand on regarde, en fait, au niveau du détail, elle est extrêmement proche en fait des chaînes alpha bêta humaines.
Et on peut dire que donc ça fait de ce ver un donneur universel quasiment.
Oui, c'est exact. Oui.
Ouais. Alors après avoir fait ces observations, comment vous avez pu développer justement votre idée? Parce que là aussi c'est un long processus. Qu'est-ce que vous avez mis en place donc pour parvenir à aboutir maintenant à ces essais cliniques dont on va parler dans un instant avec vous?
Alors en fait, brièvement, mon parcours, en fait, en 99, j'ai été recruté au CNRS. De 99 à 2007, j'apporte des preuves de concept d'efficacité de ce produit. Mmh. Et 2007, en fait, j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais faire au CNRS, puisque le CNRS, c'est un centre de recherche public, mais qui fait principalement de la recherche fondamentale. J'ai quitté le CNRS et j'ai créé une société qui s'appelle Emarina, qui est basée à Morlaix.
C'est pour ça que je parlais de sang breton, hein, tout à l'heure.
Sang breton, voilà. Et finalement, dans les premières années, j'ai développé le process industriel de production pharmaceutique de cette molécule. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la production industrielle de ces vers marins. Donc, bien évidemment, les vers marins, on ne va pas les collecter sur les plages en Bretagne.
Ah, c'est ça.
On les élève en aquaculture. Et tout le process d'extraction pour en faire un produit pharmaceutique.
Ouais. Alors comment vous procédez justement? Parce que c'est un transporteur d'oxygène universel en fait, hein, c'est ce que vous expliquiez. Hein.
Voilà, donc en fait, bon, il y a toute une étape de purification, d'extraction de cette molécule dans les conditions pharmaceutiques. Comme c'est une molécule extracellulaire, donc qui n'est pas contenue dans des globules rouges, le fait de congeler, décongeler, cette molécule se retrouve en solution. Et ensuite, on va fractionner comme du sang humain où on va prélever en fait cette molécule dans un mélange complexe de protéines.
Ouais, ça paraît tellement simple de vous entendre le raconter, alors que ça fait des années, des décennies justement que les chercheurs souhaitent arriver à cette découverte au fond, non ?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'homme a toujours tendance à essayer d'inventer quelque chose. Et finalement, moi, je suis un partisan du biomimétisme et de regarder en fait la nature comme une bibliothèque d'innovation plutôt que d'aller essayer d'inventer des choses. Puisque en fait, quand on parle de 450 millions d'années, on parle du réchauffement climatique, etc. Imaginez-vous ce que ce ver a pu subir durant ces 450 millions d'années pour arriver jusque nous. Ouais. Et souvent, en fait, les innovations sont des innovations simples. Et je dirais, il suffit de regarder la nature pour en trouver des sources d'inspiration et d'innovation.
Ouais, sauf que là, vous avez commencé en l'an 2000, c'est ça, quasiment, à vous intéresser vraiment à ce ver. On est en 2016 aujourd'hui, donc on voit aussi la lenteur du processus. Hein.
Alors, c'est clair, c'est en fait, l'innovation, c'est un processus lent, et surtout, en fait, dans le domaine médical, puisqu'en fait, le domaine médical est extrêmement... il y a des normes, en fait, réglementation derrière tout ça. Et bien évidemment, donc après ça, donc une fois qu'on quitte et qu'on se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat, ben il faut trouver des financements pour pouvoir en fait financer ces travaux.
Il faut lever des fonds.
Hein. Il faut lever des fonds et donc c'est ce que l'on a fait. Et aujourd'hui, en fait, ce produit qu'on appelle Hemodolive, qui est extrait en fait de ce ver marin, est en clinique.
Alors, vous avez combien de personnes qui travaillent actuellement avec vous ?
Alors, Emarina, aujourd'hui, c'est à peu près 35 personnes.
Ouais. Et donc, des essais cliniques qui démarrent, dans quel domaine exactement ?
Alors, dans un domaine extrêmement important pour la santé publique, puisqu'il s'agit de la préservation des greffons en attente de transplantation. Aujourd'hui, il y a plus de 21 000 personnes qui sont sur liste d'attente, avec 500-600 personnes qui décèdent par an sur cette liste d'attente. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas les greffer. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les greffes de reins, 50% des greffons qui seraient potentiellement transplantables, en fait, ont des problèmes. Soit 20% on ne peut pas les greffer parce qu'on n'a pas le temps de les transplanter. Et 30% ont des problèmes de reprise de fonction parce qu'on les conserve mal. Mmh. Et donc, quasiment tous les ans, il y a 1000 personnes supplémentaires sur cette liste d'attente. Et il faut savoir aujourd'hui qu'un patient va attendre 10 ans pour avoir une greffe de rein.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec votre trouvaille, on pourrait remplacer toutes les transfusions sanguines à l'avenir ou pas ?
Alors ça, c'est une autre application que l'on développe. Donc, remplacer toutes les transfusions sanguines, je ne sais pas. Mais en tout cas, apporter une solution, une petite solution, en fait, à la pénurie de dons sanguins au monde, certainement. Alors, il nous reste encore des étapes pour en arriver jusque-là. Mais finalement, aujourd'hui, tout ce que l'on démontre, c'est que cette molécule est efficace et peut remplacer en fait un globule rouge, les globules rouges de vertébrés.
Vous travaillez avec l'armée américaine également ?
Exactement. Ce qui est assez marrant, c'est que l'armée américaine, c'est pas parce qu'on est basé à Morlaix dans le Finistère, loin de Washington, qu'ils nous ont pas identifiés. Et en fait, on a un contrat avec l'armée américaine qui a identifié cette molécule comme une molécule extrêmement importante pour soigner des militaires qui sont sur un champ de bataille. Alors non, pas pour le choc hémorragique. En fait, le choc hémorragique par balle, un militaire fait saigner. Mais en fait, principalement par des blasts, en fait, des explosions qui vont créer des effets de souffle sur la boîte crânienne et créer des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et ils cherchaient une molécule pour aller oxygéner le cerveau, au moins pendant une heure, pour permettre d'amener le militaire à l'arrière. Mmh. Ils ont testé la molécule en fait, que l'on développait et ils sont aperçus sur des modèles de laboratoire que finalement, ils cherchaient une heure. Nous, on arrive à oxygéner le cerveau pendant plus de 2h30. Donc, qui a répondu pleinement à leurs attentes et ils ont publié les résultats dans le Journal of Neurotrauma l'été dernier.
Donc beaucoup d'applications, on est un pansement oxygénant également pour des plaies cicatrisantes. Oui. Dernière question, Philippe Douroux.
Non, mais d'où viennent les fonds et qui vous soutient ?
Alors, d'où viennent les fonds ? En fait, c'est des investisseurs privés. Donc, notamment, si vous voulez, on ouvre notre capital prochainement, donc vous pouvez investir dans Emarina. En fait, c'est principalement des business angels, en fait, des personnes qui veulent aider l'innovation en France, des banques. Et puis, en fait, tout type d'investisseur en fait qui s'intéresse en fait à l'innovation peut rentrer en fait dans le capital de la société.
C'est quoi la dimension en termes de besoin de financement ?
Alors Emarina en fait jusqu'à aujourd'hui a levé 15 millions d'euros de fonds privés. Et donc, il y a 5 millions avec les ANR, les FUI, etc. Donc, 20 millions d'euros levés pour en arriver jusque-là.
En tout cas, beaucoup de promesses derrière votre découverte, très importante évidemment. Et on peut découvrir justement votre travail en allant revoir la vidéo sur TEDx Paris qui est en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci.
d'amour, je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour, chaque nuit sous ta peau mon ombre se cotise, se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour, vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit, sous ta peau, mon ombre se bâtit, se divise. Mon ombre, je pars en confetti.
Vampire de l'amour, Dionysos.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Nouvel invité de notre club, Patrick Tabling. Vous êtes physicien et pionnier en France dans le domaine de la microfluidique. Nous vous invitons parce que lundi sera inauguré enfin l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique et puis l'incubateur de l'ESPCI Paris. On vous avait reçu quoi, il y a deux ans et demi au moment de la pose de la première pierre, oui. je me souviens. On aurait pu faire un lien d'ailleurs entre le sang et la microfluidique pour justement définir, rappelez-nous ce qu'est cette science de la microfluidique.
Alors la microfluidique, c'est la science de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique. C'est une science qui commence à être maîtrisée par l'homme, mais que la nature a maîtrisée depuis extrêmement longtemps.
C'est-à-dire, donnez-nous quelques exemples.
Par exemple, l'arbre. L'arbre, c'est un système microfluidique exceptionnel qui permet de faire monter le long de nombreux capillaires la sève jusqu'à des dizaines de mètres de hauteur et pour assurer la stabilité du fonctionnement et distribuer le fluide dans des milliers de feuilles, eh bien, il y a des vannes, il y a des milliers de vannes qui permettent d'assurer la stabilité des écoulements. Alors, puisqu'on parlait du sang, il y a un autre exemple microfluidique qui est très très difficile à reproduire, qu'une start-up est en train se donne justement pour mission de faire, c'est le problème de la production des plaquettes, ouais. Les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines sont, on en produit des milliards, on ne peut pas les stocker, donc on doit les produire en permanence, et elles sont produites grâce à l'action de l'écoulement sanguin sur des cellules qui migrent dans les tissus, qui viennent traverser les parois des vaisseaux sanguins, qui se retrouvent subitement en présence d'un écoulement, d'un cisaillement, qui les étire, qui les disloque et qui produit des plaquettes sanguines nous permettent de survivre.
C'est ça, vous avez des choses à vous raconter avec Franck Zahle.
Tout à fait, parce qu'en fait, nous, on développe également un mini bioréacteur qui fait appel à la microfluidique où nos molécules qui sont des nanoparticules vont aussi oxygéner ces cellules et augmenter en fait les rendements de production. Donc je pense qu'on a des choses à échanger là-dessus. Oui.
Bon, ben voilà. De toute façon, à chaque fois que vous venez dans la tête au carré, en général, vous repartez avec la carte de visite d'un de nos invités, parce que vous avez toujours des choses à faire ensemble, Patrick Tabling. Justement, alors l'aspect micro, l'échelle, justement, au nanomètre.
Alors, ça va du nanomètre au micromètre. En fait, beaucoup d'applications de la microfluidique concernent le domaine micrométrique ou décamicrométrique. Par exemple, dans le domaine du diagnostic, on tente à faire des diagnostics de plus en plus complexes, parce que la nature est complexe et on veut la comprendre. Et pour cela, on utilise des systèmes qui permettent de faire écouler des échantillons qui contiennent des milliers et des milliers de cellules, et les faire écouler et identifier les cellules une à une et ouais. pouvoir les analyser, repérer par exemple des cellules pathologiques qui seraient des cellules tumorales circulantes ou bien des cellules effectivement qui peuvent permettre le redéclenchement du cancer. Donc comme la cellule fait à peu près 10 microns de taille, on fait circuler ces cellules dans des canaux, des micro-canaux de taille de quelques dizaines de microns.
Et alors le fait d'être à ces échelles très petites, ça permet quel avantage alors exactement ?
Alors je vais commencer par les inconvénients. Quand on est dans le tout petit monde, eh bien, les parois sont à notre immédiate proximité, si bien que lorsqu'on transporte un échantillon qui contient beaucoup de molécules, eh bien, les molécules peuvent présenter une affinité aux parois et on peut les perdre. Mais lorsqu'on a surmonté ces problèmes qui justement justifient l'existence ou le développement d'une science, eh bien, on se trouve dans un monde où les écoulements des fluides sont extrêmement sympathiques. Il n'y a plus du tout de turbulence, c'est terminé. Les fluides s'écoulent sous une forme laminaire, suivent les géométries qu'on veut bien lui imposer. On peut agir sur ces fluides avec des champs électriques avec une grande facilité. Et donc, on se retrouve justement dans un domaine où les écoulements des fluides peuvent être extrêmement, extrêmement bien maîtrisés.
Avec des applications dans plein de domaines, la santé, l'énergie, la chimie, la cosmétique, l'agroalimentaire. Deux ou trois exemples aussi, pareil, pour qu'on comprenne bien.
Alors, l'exemple, c'est l'énergie. Et là, on tombe sur l'échelle nanométrique. Eh bien, vous avez des membranes qui sont actuellement en train d'être préparées, en particulier à l'IPGG, où lorsque ces membranes sont transpercées par des nanotubes, par exemple des nanotubes de carbone ou d'autres matériaux, eh bien, on établit un contact entre deux réservoirs et on peut de cette manière changer les concentrations en sel de l'un par rapport à l'autre. Et les propriétés d'écoulement dans les nanotubes de carbone sont telles que les rendements de ces membranes sont largement supérieurs aux membranes existantes. Mais un exemple qui jouera un rôle très important dans notre vie quotidienne, c'est le séquençage d'ADN. Derrière la machine de séquençage, il y a tout un ensemble de canaux, micro-canaux qui permettent de traiter les fluides et leur faire un très très grand nombre d'analyses. Eh bien, ces systèmes-là vont sans doute venir vers nous puisqu'on tend par ce biais vers la médecine personnalisée.
Et donc lundi, c'est l'ouverture de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique, justement. Donc ça va être un lieu de recherche, évidemment, pour avancer.
Oui, c'est un lieu, c'est une science nouvelle, pluridisciplinaire, qui appelle à la créativité et au rêve, parce que c'est faut rêver pour imaginer qu'on puisse planter des nanotubes de carbone et filtrer de l'eau de mer. Mais ce rêve est nécessaire pour induire des ruptures. Et il y a aussi un incubateur. Le couplage avec les start-up est absolument fondamental. Ce domaine permet de faire germiner des idées en rupture et l'application est pratiquement immédiate. Mmh. Et comme elle est très très nouvelle, le plus souvent, et doit être effectuée dans une sorte de nouveau paradigme de pensée, eh bien, les grandes industries avec qui on collabore beaucoup sont peut-être quelquefois pas suffisamment réceptives pour les prendre en charge. Ça ne nous dérange pas, on crée des start-up, on en a créé 11 depuis le début de la création de cet institut, c'est-à-dire il y a 4 ans, on en créera encore une dizaine avant 2020. Mmh. Et ça, c'est une façon de travailler qui nous convient extrêmement bien.
Voilà, inauguration donc lundi dans le 5e arrondissement, au quartier Mouffetard, de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes pour la microfluidique. On n'a pas fini d'entendre parler de cette science, Patrick Tabling. Bruno Macquart, vous êtes le président d'Univers Sciences, cet établissement public qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Peut-être un jour une exposition sur la microfluidique, qui sait en tout cas, parce que vous intéressez beaucoup aux nouvelles technologies. Alors vous, c'est pas une inauguration, ce sont des bougies, dimanche, les 30 ans justement de la Cité des Sciences. On revient d'ailleurs sur les tout premiers instants de votre établissement lors de son inauguration par François Mitterrand. C'était donc au mois de mars, le 16 mars 1986. 13 mars.
La géode, une bouée d'acier poli entourée d'eau, elle est le symbole de cette cité des sciences et de l'industrie inaugurée ce soir à la Villette par François Mitterrand. Lorsqu'elle sera totalement achevée, elle doit offrir 165 000 mètres carrés aux visiteurs, deux fois le centre Georges Pompidou.
C'est fait pour savoir si je deviens sourd. J'entends quand vous parlez.
Parabole du son, fabrication de lingots d'or, orgue du parfumeur, autant de gadgets destinés au plaisir du visiteur. La visite de ce soir était placée sous le signe de la comète de Halley que rencontre cette nuit la sonde européenne Giotto. François Mitterrand avait choisi cette date pour célébrer en somme deux expériences scientifiques étonnantes.
Voilà, donc la Cité des Sciences, c'est 30 ans ce week-end. Alors la Cité, c'est quoi? C'est tout sauf un musée, hein, Bruno Macquart.
C'est pas un musée, c'est presque un anti-musée. En tout cas, ça a été conçu, d'où le nom Cité, comme un endroit où on pouvait, par mille manières différentes, complémentaires, se familiariser avec les sciences, les techniques, l'industrie. Bref, se familiariser avec le monde qui nous entoure.
Ouais, donc ce lien avec l'industrie, c'est ce qui a été mis en avant au départ. C'est quelque chose toujours qui fonctionne,
hein ? Alors c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui fonctionne évidemment différemment de ce qu'il y a 30 ans. Ce que nous souhaitons être, et continuer à être, c'est être une vitrine pour l'innovation. On vient d'entendre deux innovateurs absolument fantastiques. Ce pays est très riche en innovation fondamentale et puis en innovation technique et technologique. Notre métier à nous, c'est de les montrer au public. En janvier dernier, par exemple, on a, pour la première fois, montré les innovations de la science de la santé. Et on a montré, pour sa première sortie publique, le cœur artificiel, le fameux CARMAT. Bah, les Français sont venus en masse, parce que voir les choses, c'est aussi, évidemment, les rendre tangibles et puis intéresser au-delà de ça. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ces métiers scientifiques, parce qu'on n'a plus que jamais besoin, demain, dans une économie de la connaissance, d'avoir des scientifiques.
Avec l'espace réservé aux enfants, évidemment, qui est très important au sein de la Cité des Sciences. C'est 90 millions de personnes, c'est ça, qui sont passées depuis 30 ans chez vous ?
89.
89, oui, bon, presque, on a arrondi.
On y est presque, ouais. Donc 80, et une majorité de moins de 25 ans. Je crois que c'est la grande réussite de cette maison, c'est d'avoir intéressé le jeune âge. Chez nous, on peut venir depuis l'âge de 2 ans. Puisqu'on a des propositions pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Mmh. La Cité des Enfants, c'est une réussite qu'on a exportée dans le monde entier. Il y a une petite dizaine de Cités des Enfants dans le monde et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est un modèle.
Quand vous dites vous exporter, comment ça se passe alors? Qu'est-ce qu'une cité comme ça arrive à exporter des expositions clés en main, par exemple, ou
alors on exporte notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'on aide des acteurs étrangers, des collectivités locales, des mairies ou des entrepreneurs privés à monter un équipement pour la jeunesse. Donc c'est l'esprit Cité des Enfants, c'est-à-dire s'amuser, apprendre, le tout en étant juste scientifiquement, ce qui évidemment est essentiel.
Établissement qui figure parmi le top 5 des grands établissements scientifiques dans le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans justement dans la façon de présenter la science au grand public? Ça a beaucoup changé ou pas, ou finalement les rouages sont toujours à peu près les mêmes,
hein? Alors ce que cette maison a inventé, c'est qu'elle a invité ses publics, non plus seulement à voir, ce qu'on fait dans tous les établissements culturels, mais à toucher. On se souvient tous, quand on était gamin, de ne pas toucher dans les musées. Mmh. Ben chez nous, c'est l'inverse. Non seulement on peut toucher, mais même on doit toucher. C'est la maison de l'expérimentation, c'est la maison de la main, qui relie la main au cerveau, finalement, et qui dit que pour apprendre, toucher, c'est bien aussi.
On peut même toucher une météorite martienne, en ce moment, au Palais de la Découverte.
Au Palais de la Découverte, avec la Cité des Sciences et de l'Industrie réunie dans Univers Sciences. Oui.
Alors, qu'est-ce qui marche le mieux auprès du public aujourd'hui, justement, dans la façon d'approcher la science? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné chez vous entre les expositions, justement, et les concepts?
Ce qui marche le mieux, c'est quand on éclaire d'un jour nouveau, avec un temps d'avance, des sujets qui vont devenir des sujets majeurs. On a fait une exposition sur le climat cette année avec la COP21, mais surtout on en a fait une en 2006. Ça a été la plus grande réussite de la maison, 800 000 visiteurs en 2006. J'allais dire, le climat n'était pas autant qu'aujourd'hui à l'agenda public. Mmh. Donc on est des veilleurs et on est chargés de donner encore une fois des clés de compréhension et de donner du sens à ce qui nous entoure. La technologie, elle est partout. La science, elle est partout. Dans nos téléphones, dans ce studio. Si vos auditeurs peuvent nous écouter, c'est grâce à la science et à la technique. Eh bien, il faut expliquer aux gens en quoi ça consiste, les enjeux que ça pose. Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociétaux. Et on est là pour les décortiquer et donner aux gens les moyens de comprendre.
Allez, Philippe Doureau et Franck Zal, une question chacun.
Oh, c'est pas une question, c'est une remarque. Après le cœur CARMAT, à quand l'exposition sur le Buzuc?
Écoutez, ce que j'espère, c'est que ces journées innovation santé, elles vont se répéter chaque année. Donc, on se parle après et puis... Okay.
Et pour vous allez vous attaquer aux ondes gravitationnelles?
Alors, nous avons fêté le centenaire de la théorie de la relativité générale, qui était l'année dernière, au Palais de la Découverte. Et nous nous intéressons à l'actualité scientifique, mais pas à l'actualité la plus chaude. C'est-à-dire que nous avons toujours un petit temps de digestion pour permettre aux gens de revenir sur les sujets de manière... j'allais dire, apaisée, et puis en faisant intervenir plusieurs disciplines scientifiques à chaque fois. Donc nous ne sommes pas dans le temps court, nous sommes dans le temps long, celui de l'explication, de la digestion, et c'est ça notre métier fondamentalement.
Bon, l'actualité chez vous est parfois pourtant très chaude, si je peux faire un mauvais jeu de mots, parce qu'un mois après votre arrivée, vous avez eu droit à un incendie qui a ravagé une partie de la cité. Qu'est-ce qui s'est passé après, et est-ce que ça vous a changé la façon d'imaginer ce que vous faisiez justement au sein de la cité ou pas?
D'abord, on a retroussé nos manches parce qu'il a fallu remettre le bâtiment en état. On est resté fermé 7 semaines au public, mais ça, c'est derrière nous. Ça nous a donné une idée, en fait. On s'est dit, mais le feu est un phénomène intéressant. Et donc, nous avons programmé une exposition pour la saison 2017-2018 sur le feu. Parce que le feu, c'est le feu qui chauffe, le feu qui nourrit. C'est un peu ce qui a fait de nous des hommes, parce qu'on l'a domestiqué, mais c'est aussi le feu qui détruit. Un phénomène physique très intéressant, et puis des métiers fantastiques comme celui de pompier.
Eh bien voilà, comment changer les choses qui sont parfois traumatisantes. En tout cas, les 30 ans, ce sera ce week-end, 13 mars exactement. Merci beaucoup Bruno Macquart. Dans un instant, on parle d'un génie des mathématiques, Alexandre Grothendieck. Such a shame to believe in escape, a life of every face, that's a change till I'm finally left with an end. Tell me to relax. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Et un souvenir avec Tok Tok à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
On termine ce club avec le portrait d'un génie, Alexandre Grothendieck, sur les traces justement de ce dernier génie des mathématiques, Philippe Dourou. Vous êtes journaliste à Libération, c'est vous qui signez cet ouvrage chez Alary Édition. Comment est-ce que vous êtes intéressé à Grothendieck? Vous étiez un génie des maths vous-même, plus jeune?
Pas du tout, du tout. Non, j'étais pas du tout un génie des maths, mais je cherchais à répondre à la question assez simple, c'est pourquoi est-ce que l'école française de mathématiques est aussi forte?
Ouais.
On tient tête aux États-Unis, on a à peu près autant de médailles Fields, ça c'est ça, 12, bon. Et c'est très compliqué de faire parler des mathématiciens. Extrêmement compliqué.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à part, ces gens-là?
Pas, parce que c'est Claire Voisin qui parle du farouche silence des mathématiciens. Et parce qu'ils souhaitent être entendus avec leurs mots. Et leurs mots ne correspondent pas aux nôtres. Donc il y a un hiatus. Il y a un problème de langage. Donc il faut prendre beaucoup de temps, infiniment de temps. Et Après, ils peuvent prendre du temps, mais il faut faire un effort pour aller vers eux. Voilà. Et c'est donc très très long. Et quand j'ai vu le temps que ça allait mettre, je suis tombé sur un jeune mathématicien qui m'a dit « Mais au fond, c'est pas très intéressant comme question. Ils sont comme ça, les mathématiciens. Ils vous disent souvent ça. C'est pas très intéressant. Tu devrais regarder la liste des médailles Fields français. » Ou de l'école française, puisque quand il a eu la médaille Fields, il n'était pas français, Alexandre Grothendieck. Et il y en a qu'un qui n'est pas passé par Normale Sup. Voilà, ouais. Ils sont tous passés par Normale Sup, Ulm, et pas voilà, pas une autre école. Donc, il y en a qu'un, il sortait de l'université de Montpellier, donc ça m'intrigue. Et puis à ce moment-là, vous découvrez que ça fait 23 ans qu'il est dans les Pyrénées, vous savez pas où il est, puis en plus, on vous donnera pas son adresse, où il faudra du temps. Donc je suis journaliste, ça m'intrigue et...
Ouais. Et vous êtes curieux, donc vous êtes allé sur ses traces. Est-ce que vous êtes parvenu à le rencontrer ou pas ?
Oui, enfin, parvenu à le rencontrer. Il m'a fallu 3 mois pour avoir l'adresse. Une fois que j'ai eu l'adresse, il a fallu que je promette de ne pas le déranger. C'était la règle. On ne le dérange pas. Et moi, j'ai respecté cette règle. C'est-à-dire que je suis monté une quinzaine de fois à la Serre. Maintenant, on peut dire le nom du village, dans l'Ariège. C'est très très beau. Je suis monté une quinzaine de fois. Je me suis installé 2 fois 8 jours. Je passais tous les matins. Je ne sais pas combien de fois je me suis présenté devant sa porte. Je ne l'ai jamais vu, sauf en mai 2014, où, par une chance assez extraordinaire, j'étais comme un enfant, comme un couillon, il est sorti et je l'ai vu bouger.
Juste avant sa mort, donc.
Juste avant sa mort, quelques mois avant sa mort, ouais. Il était encore en forme, il est monté à une échelle au 7e barreau, je me disais que j'allais appeler le SAMU, couper des roses, je l'ai vu. Et puis, la deuxième fois que je l'ai vu, il était derrière une fenêtre et il était très émouvant parce qu'il faisait ce qu'il... on l'a appris après, et très important pour lui, il parlait aux plantes. Ouais. Et les plantes étaient pour lui quelque chose de... C'était ses dernières amies, celles qui ne l'avaient jamais trahi. Bon, un grand misanthrope, mais c'était très émouvant et très beau.
Reportage justement au moment de sa mort, donc à La Serre, ce village de l'Ariège, où il s'était retiré en 1991. Reportage auprès des habitants qui, comme vous d'ailleurs, croisaient très rarement Grothendieck.
C'est l'une des dernières photos du mathématicien. Elle remonte à près de 20 ans. Alexandre Grothendieck mettait un point d'honneur à vivre reclus. Certains pensaient même qu'il avait disparu. Dans ce village de l'Ariège, l'homme a marqué la population avec ses lubies comme demander pardon aux mauvaises herbes. Le scientifique gardait sa porte close et recevait seulement sur rendez-vous.
Nous, on ne le voyait jamais. Il vivait en ermite, quoi. On ne le voyait jamais. Même pas dehors. Moi, je ne me souviens même pas l'avoir vu dehors sortir ni rien. On disait qu'il vivait la nuit.
Beaucoup d'étrangers sont venus, des Chinois, des Japonais, des Américains. Ils essayaient de lui parler, mais jamais ils voulaient leur adresser la parole.
Pourquoi cette obsession de l'effacement, Philippe Doureau, au fond, cette fuite de toute mise en lumière, hein, comme vous l'expliquez ?
Je ne sais pas au fond, mais enfin, ce qu'on peut observer, c'est que il a été donc un des plus grands génies des mathématiques. Il a bouleversé ce qu'on appelle la géométrie algébrique. C'est-à-dire qu'il a essayé de refondre ce mariage de l'algèbre qui est de démontrer x de plus y grec 2 égale 1, c'est l'équation du cercle. Vous prenez un compas, vous faites un cercle, vous êtes un géomètre. Bon, il faut reconstruire les mathématiques à partir de concepts extrêmement complexes, mais lui cherchait la simplicité au fond. Et il a tracé en 58 une voie qui est une voie soit royale, soit phénoménale, pour faire ça, pour faire cette union des mathématiques et au fond, pour dire à un moment, la mathématique. Bon, il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu et je pense qu'il y a un moment, il y a un effondrement qui se joue entre l'orgueil, entre la puissance de l'homme, même la puissance physique.
Mais pourtant, il a été récompensé. Il a refusé les récompenses.
Hein. Il a accepté la médaille Fields, mais il a refusé d'aller la chercher. Bon, mais ça, c'est une question plus politique. C'est que son père avait fait 2 révolutions, 1905 et 1917, du côté des anarchistes. Il a fait la révolution de 17, alors celle qu'on oublie, c'est celle de février 17 avec les bolcheviks. À un moment, les bolcheviks se retournent contre les anarchistes, son père est chassé, etc. Donc, Moscou, il n'était pas question pour lui d'y aller. En plus, après, il y a eu cette affaire des écrivains condamnés au camp par Brejnev parce qu'ils avaient publié... en Occident, sans autorisation. Donc, il n'était pas question pour lui d'aller à Moscou. Il l'a accepté. Et il a eu, avec la communauté mathématique, une grande aura. 66 et sa médaille Fields, jusqu'en 68-69, il est regardé comme étant une sorte de monstre de la géométrie algébrique. Après, c'est la rupture. Mais jusque-là, oui, c'est pas accepté. C'est qu'il est regardé, on vient le voir, Tête, Artin, tous les grands mathématiciens américains viennent le voir.
Quoi. Ouais. Ces travaux sont aussi à l'origine des plus grands outils de communication, le numérique, le téléphone portable,
l'Internet.
Que
oui, on peut
parce
dire
qu'on est dans un espace connecté, un peu grâce à Grothendieck, on peut dire les choses comme ça.
Oui, on peut le dire, parce que ça s'appuie notamment sur les topos, c'est une notion mathématique complexe que je vous détaillerai pas ici, j'en serai pas capable, mais c'est une façon de construire des espaces géométriques qui sont infiniment plus complexes que celui que nous connaissons quand on est les pieds par terre et qui permettent de téléphoner. Alors ce qui est évidemment fascinant, c'est que l'homme qui permet aujourd'hui d'échanger des données numériques de manière absolument gigantesque,
était
le plus grand misanthrope et ne parlait plus à personne.
Le plus grand silencieux de la Terre. On va écouter la voix quand même de Grothendieck. C'est un enregistrement de 1972 au CERN. De Genève.
Le fait de diviser chaque parcelle de réalité, chaque problème en des contraintes simples pour mieux les résoudre, chacun de nous maintenant ne saisit qu'une parcelle infime de la réalité, ce qui fait qu'en fait chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir, pour comprendre et pour prendre des options dans n'importe quelle question importante de sa vie ou de la vie de sa communauté ou de la vie du monde. Son découpage en petites tranches de spécialité est parfaitement arbitraire. Et ce qu'un spécialiste tout seul ne peut pas faire, eh bien, un colloque de 100 spécialistes de spécialités différentes n'y arrivera pas non plus.
Voilà, la voix très particulière d'Alexandre Grothendieck en 72. Philippe Douroux, un commentaire sur justement sa voix déjà.
Oui, sa voix est extraordinaire parce que cet accent allemand a perduré alors qu'il est entré en France à l'âge de 11 ans. Ouais. Et depuis, alors il a toujours pratiqué l'allemand avec sa mère, mais sa mère est née en 57 et cette voix perdure et conserve son origine allemande.
Franck Zahl, vous aviez une question à poser.
C'est une remarque ou un commentaire. Est-ce que finalement le fait qu'il soit isolé comme ça, est-ce que en fait il souffrait pas d'autisme type Asperger et donc être à part en fait dans sa bulle?
Alors je crois pas parce que l'enfant Asperger a un problème de communication avec les autres, de rentrer en communication avec les autres, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, il avait absolument aucun problème avec ça. Il était très en empathie pendant très longtemps, hein, jusque dans les années 90. Il est très en empathie avec ses étudiants, avec les autres mathématiciens qui sont de son niveau. Il est très en empathie, très très en empathie, et très dans le dialogue.
Je crois qu'il a beaucoup écrit. Est-ce qu'on a exploité tout ce qui nous a légué?
Vous décrivez des séances de travail avec l'un de ses élèves en particulier. Hein. C'était furieux. Hein.
Oui, c'était furieux.
Il fallait être costaud physiquement d'ailleurs pour
très
le suivre.
Très costaud, parce qu'il fallait arriver vers 14h puisqu'il se levait lui vers midi. On se mettait au travail. Le travail durait jusqu'à 9h, 9h30, 10, 22h le soir. Donc l'élève était absolument épuisé parce que là on travaillait sur les mathématiques de Grothendieck. Mais ces mathématiques, c'est ce qu'il appelait ses gribouillis. Et ces gribouillis, pour arriver à l'état de publication, c'était un
traduire.
Travail considérable.
Donc il avait son élève qui faisait travail de traducteur. Hein.
Voilà. Il a eu longtemps un grand mathématicien qui s'appelait Jean Dieudonné qui a fait ce travail. Ça a donné les éléments de géométrie algébrique. Puis une douzaine d'élèves se sont mis au travail pour rédiger ce qu'on appelle les séminaires de géométrie algébrique. Et ils sortaient épuisés à 10h. Lui se mettait au travail. À ce moment-là, il se mettait au travail. C'est-à-dire qu'à minuit à peu près, il se mettait pour son travail, y compris pendant les vacances, jusqu'à 6h du matin.
Ouais.
Et là, il a laissé, alors, à la serre, on a récupéré, enfin, la famille a récupéré et mis à l'abri 60 000 pages à peu près. Il y a 4 000 pages qui sont des mathématiques qualifiées de sérieuses par un mathématicien qui connaît les mathématiques de Grothendieck. Et puis, il y a 20 000 pages qui se trouvent à l'Université de Montpellier.
Et heureusement, des pages qu'on a sauvées, parce que lui voulait tout détruire à un moment.
Oui, alors, c'est ça qui est très touchant. C'est qu'en 2010, il dit on va tout détruire.
Ouais.
Donc, la communauté mathématique est paralysée.
Il se rétracte.
Alors, c'est pas qu'il se rétracte, c'est que quand il meurt, on découvre qu'il y a un mot, un testament, qui dit « je veux qu'on conserve ce que j'ai fait ». Et en fait, depuis 91 et jusqu'en 2014 à peu près, il classe tout. Il classe tout, il met dans des boîtes et il dit « voilà, ça c'est mon œuvre ». Donc, d'une certaine manière, pour tout le monde, on a levé cette règle qui aurait été de tout détruire, de rien mettre en accès à la communauté mathématique. Là, on va pouvoir, mais qu'est-ce que ça peut donner? Moi, les mathématiciens que j'ai interrogés là-dessus disent il n'y aura pas d'avancée majeure, mais il faut y travailler.
Voilà, en tout cas, destin singulier absolument passionnant et que vous racontez comme un romancier, Philippe Douroux. C'est Alexandre Grothendieck sur les traces du dernier génie des mathématiques et c'est aux éditions Alary. Messieurs, merci beaucoup et merci, bon week-end à vous. Merci.